que ve shooting de
jazz. Digo de Radio France
Internationale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilac. Pour le 60e anniversaire du soulèvement du peuple tibétain contre l'armée chinoise qui s'était soldée par l'exil du Dalai Lama. Sarah Elsass de la rédaction anglophone.
Good evening.
À propos de l'impact du Brexit sur le marché immobilier en France. Et puis Matei Vichniec de la rédaction roumaine.
Bună seara.
Car une magistrate roumaine pourrait bien diriger le futur parquet européen. Bonsoir à vous tous, mais avant cela, intéressons-nous à la situation qui prévaut en Algérie, alors qu'Abdelaziz Bouteflika sera bien candidat à sa propre succession avec un cinquième mandat. Les manifestations d'hostilité continuent avec ce vendredi une marée humaine dans les rues d'Alger, notamment. Alors Matei Vichniec, ce qu'a notamment retenu la rédaction en langue roumaine, c'est le fait que c'est la jeunesse qui est très mobilisée dans cette protestation.
Oui, c'est une jeunesse pour laquelle la vieille garde au pouvoir n'a rien préparé, une jeunesse qui se considère privée d'avenir. Il faut préciser aussi que plus de la moitié de la population algérienne a moins de 30 ans. Les jeunes sont de plus en plus éduqués, diplômés, mais aussi au chômage. Et c'est aussi une jeunesse qui n'a connu que le régime autoritaire du Bouteflika. J'ai cité des déclarations des jeunes algériens qui apparaissent dans un dossier publié par la revue Le Point. Un jeune qui dit: on a peur, mais on a surtout marre que le monde entier se moque de nous. On comprend aussi l'exaspération de la jeunesse algérienne lorsqu'on regarde ces slogans, par exemple celui-ci. J'ai 30 ans, 10 ans du terrorisme et 20 ans du Bouteflika.
Alors vous êtes intéressé également aux slogans hein, qui sont scandés et aux revendications inscrites sur les pancartes.
En France, on a beaucoup parlé des slogans de mai 68, au moment où l'imagination était au pouvoir. C'est maintenant peut-être le tour de la jeunesse algérienne de s'illustrer de ce point de vue. L'imagination et la colère associées donnent en Algérie des slogans d'une force de suggestion extraordinaire. Par exemple, tous les pays ont une mafia, la nôtre a un pays. Ou bien, on rate nos cours pour sauver l'Algérie. Ou encore, ils ont des millions, nous sommes des millions. Et encore, place aux jeunes. Les manifestants refusent en même temps le slogan principal du clan au pouvoir qui est « c'est nous ou le chaos ». Le problème c'est que le clan dispose d'une force considérable, l'armée, la police, les informateurs et aussi une partie du clergé qui conseille dans les mosquées l'obéissance. Il y a un slogan qui est repris dans presque toutes les révoltes populaires. Armée, peuple, ils sont frères. Je me rappelle la chute du régime communiste en Roumanie en décembre 89. L'armée est avec nous, criaient les manifestants. Mais ce n'est pas souvent le cas. En Syrie, en Égypte, en Iran, au Venezuela, ce slogan n'a pas eu une portée réelle.
Sarah Elsass, venons-en à la France. La France qui est restée assez discrète hein, sur ce sujet, sur ces manifestations, contestations en Algérie.
Oui, en effet, même si le président Emmanuel Macron a vite pris position, par exemple, sur les manifestations au Venezuela contre le président Nicolas Maduro, il n'a toujours rien dit sur le sort du président Bouteflika en Algérie. Et pour cause, nous ont expliqué plusieurs experts de la relation franco-algérienne. L'histoire coloniale entre les deux pays fait que Macron doit vraiment poser ses mots. Un ancien chef adjoint de l'ambassade américaine en Algérie nous a dit que tout ce qui vient de la France peut être utilisé en Algérie pour n'importe quel agenda politique. La perception que la France se mêle dans les affaires algérienne peut être utilisée par un côté ou l'autre. La politique donc française en Algérie, c'est de mettre la priorité sur la stabilité, la prévisibilité. Un changement du statu quo serait un saut dans l'inconnu. Et selon lui, cet ancien ambassadeur, l'Algérie aussi regarde beaucoup la France de près. Et ce n'est pas par hasard que ces manifestations se manifestent au même temps que le mouvement des Gilets jaunes ici en France. Les Algériens tirent une similarité entre les problématiques économiques et politiques de la France et chez eux.
Et puis il y a aussi la question de la défense, de la sécurité, Sarah, qui étaye la relation franco-algérienne.
Oui, la France travaille de près avec le régime en Algérie qui joue un rôle important dans le Maghreb et à travers l'Afrique du Nord. L'Algérie reste un pays crucial dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel qui pourrait être menacé par un bouleversement politique. De plus, ici en France, il y a l'inquiétude d'une vague d'émigration vers la France, comme nous a dit un historien spécialiste dans la guerre d'indépendance algérienne. Comme il y a déjà beaucoup d'Algériens avec des origines algériennes en France, ce serait logique d'aller s'y installer. Et le gouvernement français, actuellement, ne veut vraiment pas voir beaucoup d'Algériens exilés arriver en France.
Mathilde, je reviens vers vous. Vous avez lu ce qu'écrit l'écrivain et l'éditorialiste Kamel Daoud cette semaine dans le magazine Le Point.
En Algérie, tout un peuple est obligé de se prosterner devant une photo, la photo d'un président absent, raconte Kamel Daoud. Dans l'histoire des dictatures et des présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir, je pourrais dire que le cas Bouteflika est particulier par son côté humiliant, absurde et cynique. Absent depuis 2013, Bouteflika a voulu, ou plutôt son clan, que le pays lui ressemble, qu'il devienne invisible, immobile et muet. Je citais encore Kamel Daoud. Ce qu'il dit de la crise algérienne rien ne me fait penser aussi à l'Europe et même aux gilets jaunes. Très souvent en France et dans d'autres pays de l'Europe, on a oublié ce que ça veut dire une véritable dictature, un véritable système autoritaire et policier. Et je pense qu'il y a une leçon à prendre, à tirer en Europe quand on voit la soif de démocratie qui existe en Algérie.
Hermine Roumilac, les intérêts de la Chine sont liés à l'évolution de cette vague de contestation en Algérie. On imagine que le gouvernement surveille de très près, malgré le calme en apparence.
Oui, la Chine surveille de près parce que la Chine a expatrié beaucoup d'ouvriers en Algérie, comme dans les autres pays africains où il y a des investissements chinois sur place. Donc selon le chiffre de 2009 déjà, il y aurait 30 000 ouvriers chinois sur place. Donc en fait, ces entreprises chinoises embauchent très peu des main-d'œuvre locaux sous prétexte qu'ils ne sont pas assez qualifiés, ou alors même s'ils sont embauchés, ils sont beaucoup moins bien payés que les Chinois. Donc cette situation crée déjà une certaine tension sur place. Donc s'il y aura un changement du régime ou le chaos prévu par le président Bouteflika lui-même ce jeudi en Suisse, la Chine doit craindre d'abord pour la sécurité pour tous ses ressortissants en place. En plus, il y aura aussi le risque de se retrouver dans la même situation, même en baraque en Venezuela actuellement, où la Chine a énormément investi, mais c'est-à-dire tous ses investissements ou des prêts financiers risquent de tomber totalement dans l'eau sans aucune trace.
Alors, au-delà, est-ce que la Chine réagit officiellement à ce mouvement de protestation en Algérie ?
Toujours par le principe de non-ingérence, le gouvernement chinois ne donne jamais aucun commentaire sur les événements passés dans un autre pays. Et si ce n'est de faire seulement appel à ses ressortissants dans le pays, de faire attention à leur sécurité et de s'éloigner des attroupements des gens locaux. Donc la presse chinoise rapporte des stricts minimums des faits, sans donner des commentaires pareil. Donc habituellement déjà, on sait que les manifestations dans les autres pays font l'objet des sujets tabous en Chine. Pékin craint toujours que ce genre de mouvement soit susceptible de créer un effet papillon en Chine qui causerait l'instabilité dans le pays même. Mais ensuite, en même temps, cette situation que le fait d'avoir un président très vieux n'impressionne pas du tout les Chinois, parce que dans l'histoire moderne de la Chine, on avait Mao Zedong qui a été très malade pendant plusieurs années à la fin de sa vie tout en restant au pouvoir. Et le président actuel chinois, Xi Jinping, il a fait la réforme constitutionnelle l'année dernière, prouvée par 33 000 représentants du peuple.
Et ça veut dire donc qu'il pourrait rester président à vie, quoi.
Oui, avec cette réforme, il pourrait rester président toute la vie s'il veut.
Plus largement, quelles sont les relations entre la Chine et l'Algérie, Hermine?
Les relations sont très bonnes et M. Bouteflika est considéré comme un vieil ami, bien sûr pas à cause de son âge, du peuple chinois. En décembre dernier, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations entre les deux pays, les présidents de ces deux pays ont félicité ensemble cette relation. La Chine a été le premier pays non arabe qui a reconnu l'Algérie, et l'Algérie a été l'un des premiers pays africains qui a reconnu la République populaire de la Chine fondée en 1949 par le Parti communiste.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces événements, ces manifestations contre le pouvoir en Algérie.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de Radio France Internationale. Tout d'abord, la rédaction en roumain, puisque la magistrate roumaine, qu'est Laura Codruțca-Kövesi, est l'une des favorites pour y diriger le futur parquet européen. En effet, Matei Vișniac, elle a été placée en tête des préférences de la commission Liberté civile, justice, affaires intérieures du Parlement européen.
Oui, pour ce poste clé, elle a devancé le candidat français et allemand. Mais il faut dire aussi que la procédure de nomination est complexe. Elle doit encore faire l'objet de négociations entre le Parlement européen et les pays de l'Union européenne. Et ces derniers ont exprimé leur préférence pour le magistrat français, on le sait. Mais écoutons plutôt la déclaration de Laura Codruța-Kovesi après avoir obtenu le soutien du Parlement de Strasbourg.
Aș vrea să spun că acest vot nu este doar pentru mine, acest vot este pentru tot sistemul de justiție
român. On estime qu'elle est satisfaite, on devine.
Je voudrais dire que ce vote n'est pas seulement pour moi, ce vote est pour tout le système de justice en Roumanie, ce vote est aussi pour les citoyens roumains qui ces dernières années ont soutenu la lutte contre la corruption et la lutte pour l'état du droit, et c'est un vote aussi pour tous les procureurs et les juges qui en Europe travaillent sous la pression.
Et en ce moment, cette magistrate subit la pression du pouvoir sociodémocrate, qui est donc au pouvoir en Roumanie, qui essaie par tous les moyens de la discréditer. Pour quelle raison ?
Tout simplement parce qu'entre 2013 et 2018, elle a dirigé le département national anticorruption en Roumanie. Plusieurs milliers de personnes corrompues, dont des ministres, des patrons et des responsables politiques, ont été envoyés derrière les barreaux. Cela a été un nettoyage sans précédent en Roumanie et ce n'est pas pour rien que l'actuel pouvoir veut se débarrasser de cette égérie de la lutte contre la corruption. On lui reproche des abus et elle est citée à comparaître maintenant devant la justice roumaine.
Est-ce qu'on peut penser que l'indépendance de la justice est actuellement en danger en Roumanie ?
C'est ce qui pensent beaucoup de Roumains et la majorité des magistrats en Roumanie. Les Roumains descendent d'ailleurs souvent à nouveau dans la rue pour défendre autant l'indépendance de la justice que Mme Kövesi. Bruxelles, qui surveille de près la justice en Roumanie, a récemment critiqué une réforme, entre guillemets, adoptée sans consultation avec les magistrats. La Roumanie risque, après la Hongrie et la Pologne, de subir des sanctions européennes si le régime actuel continue à affaiblir l'état du droit.
Et alors, quand est-ce qu'on saura si elle obtient ce poste ?
Mais les négociations, c'est un mystère, on ne sait pas.
D'accord, en tout cas dans les prochaines semaines.
Oui.
C'était la rédaction roumaine de RFI avec Matei Vișniac. Ce dimanche sera l'occasion de célébrer le 60e anniversaire du mouvement des Tibétains contre l'armée chinoise. À l'époque, cet événement avait conduit à l'exil le chef religieux vénéré par le peuple tibétain, à savoir le Dalai Lama. Alors, Hermine Romilac, cet événement a marqué un tournant important dans l'histoire du Tibet. Rappelez-nous ce qui s'est passé précisément.
Alors, en fait, je dois avouer que c'est très difficile d'expliquer ce qui s'est passé, et parce que selon les positions différentes, cet événement a un nom différent et les différentes versions des faits. Donc, les Tibétains l'appellent le soulèvement du peuple contre l'invasion de l'armée chinoise. Et de côté de Pékin, ça s'appelle la révolte armée de 1959. Donc voilà, donc déjà ça se dit beaucoup de choses dans ces noms. En fait, le 10 mars de cette année, 1959, des milliers de Tibétains, de 2 000 à 30 000 selon les chiffres, selon les sources différentes, se masseraient autour du palais de Dalai Lama pour l'empêcher d'aller au spectacle donné par l'armée chinoise. Selon ces Tibétains, c'était une ruse de la part des Chinois qui voulaient en réalité enlever leur chef spirituel. Donc selon les versions chinoises officielles, il y avait à l'époque 1 000 hommes de troupes à Lhasa, donc la capitale de Tibet. Ils ont été attaqués par plus de 5 000 rebelles armés. Donc les militaires chinois ont contre-attaqué le matin du 20 mars et ont mis fin à ces déroutes de ses ennemis, en fait.
Et du coup, le Dalai Lama prend la fuite, donc le 17 mars, et il part en Inde.
Hein. La date serait donnée par plusieurs sources, le 17 mars, par l'Inde, et probablement aidé par le CIA aussi. Donc, il serait arrivé avec des milliers de Tibétains le 30 mars à Dharamsala, en Inde, et ils sont installés le gouvernement en exil. Et puis il n'est jamais retourné en Tibet. Et le Pékin considère Dalai Lama comme un séparatiste dangereux. Donc il donne un nom, c'est un loup avec la peau de mouton. Parce que Dalai Lama, il se montre toujours très gentil et très, très souriant devant
le monde. Il y a eu des victimes à l'époque aussi. Hein.
Selon certaines sources, après la fuite, après le départ de Dalai Lama, le 17 mars, il y aurait suivi d'un massacre. Donc 15 000 Tibétains seraient tués par l'armée chinoise.
Ça, c'est un point d'histoire. Revenons aujourd'hui. Le responsable du Parti communiste pour le Tibet déclarait cette semaine que le Dalai Lama n'a rien fait pour son peuple, que les Tibétains sont reconnaissants au Parti communiste chinois de leur avoir apporté une vie heureuse.
Oui, bah oui. À l'écouter, tout est merveilleusement bien au Tibet, mais il a peut-être oublié qu'il y a eu 150 Tibétains immolés par le feu depuis 2009 pour protester contre la présence chinoise au Tibet. Donc, le responsable de la communication avec la communauté chinoise du gouvernement tibétain en exil qui se trouve en Europe, monsieur Lo Sanyama, voulu répliquer à cette à ces paroles.
On l'écoute.
Alors,
que dit-il ?
Il a dit, il voulait justement demander ce que le gouvernement chinois a fait pour le peuple tibétain depuis les années 50, c'est-à-dire leur entrée dans, dans la région tibétaine. À part mener des répressions successives pour éliminer les élites tibétains, détruire la culture, la tradition et piller les ressources naturelles dans la région, il a dit que le Parti communiste n'a rien fait dans la région. Et si le Tibet est une région autonome, pour quelle raison aucun Tibétain n'est nommé jusqu'à maintenant comme le plus haut responsable de la région? Et si le gouvernement chinois estime que le peuple est si heureux, alors pourquoi ils n'ont pas le courage d'ouvrir la région à tout le monde et laisser les
alors,
médias
que dit-il également pour la gratitude qu'expriment les Tibétains à Pékin?
Tout simplement, et il a dit qu'ils ont été obligés de le faire.
Quel est son propos
il a dit
que
toutes les familles tibétaines sont contraintes d'avoir un drapeau chinois devant la maison et de coller le portrait d'un dirigeant chinois au mur. Et si quelqu'un montre un petit peu d'amour pour, pour sa propre culture, il serait considéré comme un séparatiste, tout simplement.
Hermine Roumilag, de la rédaction chinoise de RFI. Et puis regardez le calendrier, nous sommes maintenant à 3 semaines du Brexit. Le Royaume-Uni quittera alors l'Union Européenne. Pour l'instant, rien n'est fait, pas d'accord, beaucoup d'incertitudes. À la rédaction anglophone, vous préparez une série de sujets sur les différents secteurs impactés par ce Brexit, Sarah Elsass. Cette semaine, vous avez fait un point sur le marché immobilier en France.
Justement, des Britanniques cherchent à acheter dans le sud de la France. Et ce sont les expatriés français qui cherchent à revenir en France qui sont de plus en plus nombreux à acheter à Paris. Le marché ici à Paris déjà saturé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'offres auxquelles s'ajoutent des centaines de Français qui travaillent à Londres, qui anticipent devoir revenir dans leur pays d'origine. Les compagnies immobilières ont vu une montée de demandes comme l'entreprise Home Like Home qui entreprend les démarche pour les personnes qui cherchent à acheter en France de l'étranger. Charlotte Rostin, une agente immobilière avec le groupe, nous a dit que la demande des Français expatriés à Londres, qui reviennent à Paris, a augmenté de 30% comparé à 2016, juste avant le référendum du Brexit.
We are working with young couples who work in finance most of the time. Some of them are already transferred.
Et elle vous donne plus de détails. Hein.
Oui, donc elle dit qu'ils travaillent avec des jeunes couples qui travaillent pour la plupart dans la finance, qui ont été mutés en Paris ou qui vont l'être bientôt, et d'autres qui anticipent un retour. Au court terme, leur situation avec le Brexit est très incertaine, donc ils cherchent à investir et avoir l'option de revenir en France facilement dans quelques mois, si besoin.
Alors, bien sûr, tout cela a un impact sur le marché immobilier.
Tout à fait. Le nombre de ces personnes qui retournent en France n'est peut-être pas énorme, mais les professionnels disent que ce n'est que le début. Les entreprises commencent à quitter le Royaume-Uni pour la France, ce qui amène du travail, ce qui amène aussi des familles qui cherchent des appartements plutôt de luxe, près des écoles internationales, ce qui augmente une situation qui est déjà très tendue. Sur les 50 000 transactions immobilières par an à Paris, 5% sont dans le luxe, ce qui fait 2 ou 3 000 appartements. Ce qui n'est pas beaucoup quand on voit par exemple que la Bank of America, qui va développer ses activités à Paris, nécessitera 1 000 appartements.
Et est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que ça représente qui viendraient s'installer?
C'est pas très clair parce que bien sûr ils peuvent être mutés un peu partout en Europe. Il y a entre 300 000 et 600 000 Français à Londres, donc c'est énorme. Alors ils vont pas tous partir, mais il y a beaucoup de mouvements. Pour l'instant, je crois que c'est assez. Ils reviennent pas tous à Paris, mais c'est vrai que quand on saura plus sur l'accord du Brexit, qui peut rester, qui va pas rester, ça va certainement changer les choses.
Et ça va forcément avoir un effet sur les prix du mètre carré à Paris, qui sont déjà très élevés.
Très élevés, hein. Et qui vont ne que croître, je pense.
Sarah Elsass de la rédaction en anglais de RFI. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.